Bonjour, Régis Coulange. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Cette émission s'appelle « Pour la dignité ». Tous les derniers lundis de chaque mois, de 16h30 à 17h30 sur Fréquence Mistral 99.3.
Sur Fréquence Mistral 99.3. Et c'est tout de suite sur Fréquence Mistral. Bonjour Régis Coulange et ton invité Nicolas Cucchetti. Bonjour.
Voilà, bonjour, oui. Oui, alors là, c'est plus un invité, hein, puisque il vient en fait animer l'émission avec moi.
D'accord.
On s'est dit, ça serait plus vivant d'être deux voix et même trois avec la tienne. Voilà, donc
et
on s'est
enchanté.
Dit.
Alors c'est voilà. Bien, c'est bien. Et tu feras partie régulièrement.
Ben, lorsque j'aurai du temps libre, ouais,
d'accord.
Pour me consacrer, parce que.
Super. Alors ouais. Le sommaire, Régis, de cette émission pour la dignité.
Alors, le sommaire aujourd'hui, donc nous allons faire un petit peu le bilan du grand concert que nous avons fait vendredi 21 novembre pour célébrer les 25 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Ensuite, nous parlerons de l'emprisonnement de Biram Dahabé, notre ami mauritanien, prix des droits de l'homme de l'ONU 2013, qui se trouve, hélas, en prison, injustement, bien sûr. Ensuite, un petit message sur le conflit à Gaza, parce que Amnesty a sorti un rapport. Suivra ensuite les 10 jours pour signer. Alors, cette grande opération mondiale de signatures, de pétitions, de lettres, de messages pour des personnes, pour 12 cas bien précis que nous vous présenterons. On terminera par une présentation d'albums pour enfants. Vous savez qu'Amnesty coédite des albums pour les enfants qui traitent de problèmes de droits humains adaptés à leur âge. Et ça peut constituer de bonnes idées de cadeaux de Noël intéressants. Voilà. Voilà pour le programme. Donc nous allons commencer pour faire le bilan de ce concert. Alors, un concert qui a été apprécié, je pense, par tout le monde. C'est vrai que les gens qui sont sortis avaient le sourire, étaient très contents. Les musiciens et les chanteurs aussi.
Oui.
Odile, tu me confirmes ?
Je confirme, parce que c'est vrai que l'année dernière, il y avait qu'un groupe. Et cette année, c'est bien, parce qu'on a diversifié la musique, hein, ce qui
oui.
a permis d'amener d'autres personnes. Je ne sais pas si on peut rappeler qui y avait.
Oui, alors on a eu Gérard Schmidt-Valla qui a commencé la soirée par des morceaux de piano de sa composition. Et donc Gérard, c'est un membre du groupe là, qui vient beaucoup plus depuis qu'il est à la retraite, qui était prof de musique et qui habite dans la vallée de... après Varem. Mm-hmm. Donc c'est vrai que quand il travaillait, il avait du mal à venir. Et là, il est très présent à notre groupe et il a accepté de nous jouer ses morceaux. Ensuite, on a eu Hélène Gosselin.
Et Délian Jazz.
Et Délian
donc
Jazz.
Les deux complices qui sont au piano, Daniel Cotreau et Alain Verne à la contrebasse.
Mm. Voilà, hein, pour des reprises de
standards
chansons.
De jazz.
Standards de jazz. En français, en anglais,
ouais.
Avec vraiment une voix magnifique et puis très bien accompagnée par ses
complices.
Ses ouais. complices. Voilà. Et donc ensuite, on a offert un buffet à 20h, là, et ça nous a permis aussi d'échanger. Et ça a permis aussi aux gens qui n'avaient pas pu signer nos pétitions, nos lettres avant le concert, de venir le faire, de venir discuter avec nous de nos actions. Et alors, on est content parce que, bon, on a eu... on avait une pétition sur un Japonais condamné à mort malgré son handicap mental. Donc, on a obtenu 50 signatures. 40, 4 signatures pour une pétition sur les migrants afin que l'Europe pense aussi à protéger les personnes au lieu de toujours penser à protéger ses frontières. Et puis une pétition sur un jeune mineur iranien condamné à mort qui a recueilli 50 signatures aussi. Alors, c'est une pétition bien en lien avec la Convention internationale des droits de l'enfant. Vous savez que dans cette convention, il est absolument interdit de condamner à mort un mineur, ni même à la prison à vie. Hein. On pense qu'un mineur, il a le droit de pouvoir se racheter, etc. Voilà. Et donc, c'est absolument interdit. Et c'est d'ailleurs pour ça que les États-Unis n'avaient pas signé la Convention internationale des droits de l'enfant. Il n'y a que deux pays qui ne l'ont pas signé, ratifié, les États-Unis et la Somalie. C'est quand même assez honteux, ces deux pays qui restent en dehors de la signature par tous les autres pays de la CIDE. Donc, on avait aussi fait une lettre pour Biram. Alors, Biram, je vais vous en parler un peu plus loin. Mais il y avait une lettre qui n'était pas présentée par Amnesty International, mais par l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, qui sont très en lien aussi avec Biram. Et donc, on a pris leur lettre pour la faire signer, pour demander au président mauritanien la libération de Biram et de ses compagnons. Et puis, une autre lettre qui a obtenu 17 signatures pour deux étudiantes égyptiennes et une enseignante, qui avaient manifesté pacifiquement en Égypte et qui ont été arrêtés et condamnés à de 2 à 6 ans de prison. Et enfin, une autre lettre pour un journaliste en Gambie, Ebrima Mané. Lui, il a disparu depuis 2006. Donc en fait, la disparition, c'est quelque chose qui est utilisé par certains États et c'est terrible pour les familles parce qu'on ne sait pas si les personnes sont encore vivantes ou si elles sont mortes. C'est une méthode très, très douloureuse pour tout le monde. Voilà, donc, beaucoup d'échanges. Une belle ambiance, une très belle soirée. Les musiciens et chanteurs en communion avec le public. On avait fait une entrée libre avec une participation. On a obtenu 700 euros de recettes qui vont, bien sûr, à Amnesty International et à son combat pour les droits humains.
Est-ce que ça comprend la vente des calendriers et des livres ?
Oui, on a...
C'est tout, oui, c'est tout, voilà, groupé, tout, c'est tout pas groupé, uniquement les voilà. Recettes
On a un petit peu vendu aussi des calendriers, mais on est content. Hein, puis on a parlé d'Amnesty, on a fait connaître nos...
Il y a encore des personnes qui ne connaissent pas Amnesty, à Digne.
Ah. Ce qui est intéressant, c'est que pendant le concert, on a eu quand même certains jeunes qui sont venus. Dont une jeune qui est au lycée David Nel, donc qui a été intéressée pour faire partie d'une antenne jeune sur Digne. Donc, ce qui est, on pourra en parler un peu plus loin pour les 10 jours pour signer. Et voilà, le fait de savoir qu'il y a des jeunes qui se prêtent quand même à connaître ce qui se passe sur Amnesty à travers le concert, c'est encourageant.
Et c'est une personne qui est venue au départ pour le concert.
Oui, je pense.
Oui, oui, c'est une ancienne élève, je l'avais eue en primaire. Ah. Et ça ne m'étonne pas d'elle, parce qu'elle était toujours très intéressée par tout ce qui se passait. Et en fait, comme disait Nicolas, c'est bien que des artistes qui sont aussi des sympathisants et des militants d'Amnesty... s'engage comme ça, ça fait venir du monde, et comme ça on peut montrer que Amnesty International, c'est un mouvement de militants, qu'on a besoin d'un maximum de personnes qui nous soutiennent et qui participent à nos actions, hein, puisqu'on tout le monde peut aller sur le site d'Amnesty et signer en ligne des pétitions. Chacun peut aussi adhérer au mouvement. On est 3 millions de membres dans le monde entier, mais on pourrait être beaucoup, beaucoup plus. Hein. Et plus on est nombreux, plus on a de force. Et c'est souvent la pression de l'opinion publique qui fait avancer les choses. Si on compte que sur les gouvernements, hélas, je pense que ça avancerait beaucoup, beaucoup moins vite.
Pas d'élus dans la salle, si. Est-ce qu'il y avait des élus présents pour le concert?
J'en ai pas vu, non.
Moi non plus.
Bon.
Et puis, bon. On a un peu regretté que ça passe pas
dans le journal.
Dans le journal, ouais. Ça c'est dommage. Mmh. Mais bon.
Mais peut-être qu'on aura un article pour la Haute-Provence Info, peut-être, non?
Peut-être, il faudrait faire. On va essayer de faire envoyer une photo et un petit article pour. Voilà, alors par rapport. Donc c'était pour fêter les 25 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. 25 ans, une convention qui traite de l'ensemble des droits humains. Et il y a une avancée cette année qui concerne la France. Alors Nicolas va nous en parler.
Une avancée donc qui est conséquente parce que le 20 novembre dernier, c'est la date du 25e anniversaire de l'adoption par les Nations Unies de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, la CIDE. Alors la France a enfin signé le troisième protocole facultatif à cette convention. Alors cette signature à laquelle s'était engagé le gouvernement français à l'issue de son examen périodique universel devant le Conseil des droits de l'homme en juin 2013, intervient 3 ans après l'adoption de ce protocole qui crée un mécanisme d'examen de plainte individuelle en cas de violation des droits protégés par la CIDE. Le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies peut être ainsi directement saisi directement par les enfants eux-mêmes ou leurs représentants. Selon le communiqué de presse du gouvernement, cette adhésion renforce la prise en compte par la France de la parole de l'enfant et témoigne de sa volonté de rendre pleinement effectifs les droits de l'enfant tels qu'ils sont garantis par les textes internationaux. Amnesty International, qui avait appelé à plusieurs reprises le gouvernement français au respect de ses engagements, se félicite de cette signature et engage le gouvernement à lancer au plus vite le processus de ratification par le Parlement pour une mise en œuvre rapide et effective de ce mécanisme.
Voilà, c'est une avancée importante puisque j'en avais déjà parlé à cette antenne. La parole de l'enfant est de moins en moins prise en considération en France, et ça depuis notamment l'affaire dite d'Outreau, hein, où vraiment on a énormément, les médias ont parlé uniquement des adultes, alors qu'on a complètement oublié qu'il y a 12 enfants qui ont été reconnus victimes. Et là, personne n'en a parlé. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui est... C'est une avancée importante. On attend que le Parlement le ratifie. Voilà. Alors, on va peut-être maintenant passer à un texte qu'Abdelmalik a écrit pour Amnesty International il y a 2 ans, 2012, justement pour les 10 jours pour signer. Un magnifique texte que Alain a repris... à la soirée sur Digne.
Mmh. Oui, on va l'écouter.
On va l'écouter.
Voilà. En plus, tu n'as pas pu l'écouter en direct.
Voilà.
Bon, alors on l'écoute.
Voilà, c'était vendredi soir à l'invité sur un texte d'Abdelmalik.
J'aimerais ici entendre le souffle du soleil, parler le langage de l'aube naissante, la promesse de tous les lendemains qui chantent en chœur. J'aimerais tant dire c'est bientôt fini, à toi qui hurle à la lune ta souffrance, la tendresse de tous ceux qui n'ont deuil que celui du cœur. Des gens qui perdent lentement leur avenir à force de se tuer au labeur, des gens qui payent comptant ce que d'autres ont commis comme erreur, des gens qui pleurent leurs rêves, tués au grand jour, recroquevillés dans l'obscur du regret, des gens qui, ayant assez de mourir à petit feu, en viennent à s'immoler. Et ces papiers, monsieur, s'il vous plaît, incessants. Et c'est l'irrespect de l'humanité des gens qui ne sont pas blancs. Et c'est le regard qu'on ne porte même plus à notre semblable. Et c'est la dignité même qui devient une valeur jetable. J'aimerais ici entendre le souffle du soleil, parler le langage de l'aube naissante, la promesse de tous les lendemains qui chantent en chœur. J'aimerais tant dire c'est bientôt fini, à toi qui hurle à la lune ta souffrance, la tendresse de tous ceux qui n'ont deuil que celui du cœur. Des gens qui sont considérés plus petits que d'autres, des gens qui finissent par se croire plus petits que d'autres, des gens que l'on a rendus invisibles à force de dénigrer, des gens qui ont rendu leur âme, même en vie, à force d'être insultés. Et ces gens qui meurent par tant de grand froid, et c'est l'indifférence qui fait mourir de ne plus croire, et ces gens qui vendent leur corps pour vivre, et c'est l'existence qu'ils nous vendent qui nous brise. J'aimerais ici entendre le souffle du soleil, parler le langage de l'aube naissante, la promesse de tous les lendemains qui chantent en chœur. J'aimerais tant dire c'est bientôt fini à toi qui hurle à la lune ta souffrance, la tendresse de tous ceux qui n'ont deuil que celui du cœur. J'aimerais ici entendre le souffle du soleil parler le langage de l'aube naissante. Le langage de l'aube naissante, mais avoir la conscience toujours au-dessus de l'appartenance.
Voilà. Donc après ce beau texte qui colle bien aux préoccupations d'Amnesty International. On a une mauvaise nouvelle, là. Notre ami Biram Dahabé, qui est mauritanien, qui fait partie de l'ethnie Aratine, une ethnie dont une grande partie de sa population est maintenue en esclavage en Mauritanie. Pas seulement l'esclavage moderne, mais un esclavage comme au Moyen-Âge, hein, où les enfants appartiennent au maître, et le maître a tous les pouvoirs. Et cette pratique, malgré que la Mauritanie ait ratifié tous les grands textes de protection des droits humains, dont l'interdiction de l'esclavage, dans les faits, l'esclavage existe toujours. Et Biram a promis, quand il était jeune, à son père de lutter toute sa vie contre cet esclavage qui a brisé le cœur de son père. Et c'est ce qu'il fait, et ça lui coûte très cher. Donc le 11 novembre 2014, Monsieur Biram, président de l'association Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie, ancien candidat à la présidentielle, il a fini second d'ailleurs avec 9% des voix, ce qui est énorme quand on sait que dans tous les bureaux de vote où son association n'avait pas de représentants, il y a eu du bourrage d'urnes. La télévision, les journaux, tout ça sont aux mains du pouvoir en place. Donc, M. Biram, ancien candidat présidentiel, a été arrêté par des gendarmes à Rosso, ville située à 200 km au sud de la capitale Nouakchott. Arrêté avec 7 autres défenseurs des droits de l'homme. Voilà comment ça s'est passé. Alors, ça nous a beaucoup peiné, mais pas trop surpris, parce que depuis fin octobre, les membres de son association font l'objet d'une vague d'intimidation, de menaces de mort, d'arrestation et de harcèlement judiciaire du fait de leur action. Le 23 octobre 2014, Biram a tenu une conférence de presse à Nouakchott, au cours de laquelle il a mis en avant la récente mobilisation d'associations et d'élus à Chicago, aux États-Unis, pour dénoncer la persistance de l'esclavage en Mauritanie. Dès le lendemain, l'imam de la grande mosquée de Nouakchott, issu de la communauté Bidam, qualifia l'association de Biram et Biram d'impie, d'apostas et d'ennemi de l'islam. Les injures de l'imam provoquèrent la colère des Aratines et une vive altercation entre ces derniers et les membres de la communauté arabo-berbère. Dans la soirée, trois membres de l'IRA sont arrêtés, puis inculpés de perturbation de la prière, incitation à la haine et à la rébellion, et agression contre les forces de l'ordre, et envoyés à la prison de Dar-Nem, tristement célèbre pour la torture qui y est pratiquée. Alors au lieu d'arrêter l'imam qui a proféré des menaces de mort envers Biram et ses amis, on arrête ceux qui sont venus à le défendre. Voilà, le monde est à l'envers en Mauritanie. Et la répression a continué. Les abolitionnistes ont décidé de faire ce qu'on appelle une caravane contre l'esclavage foncier. Alors qu'est-ce que c'est que l'esclavage foncier ? C'est l'accaparement des terres. Et ça se pose avec acuité dans tout le continent africain, d'ailleurs. Et le sud mauritanien n'est pas épargné par cette pratique. En effet, à la recherche de terres fertiles, des multinationales et de l'agro-business investissent de nombreux pays. C'est un enjeu de taille mondiale. En Mauritanie, au Sénégal, de part et d'autre de la vallée du fleuve Sénégal, les populations, soutenues par diverses organisations de défense des droits de l'homme et autres ONG, se mobilisent fortement, manifestent et marquent ainsi leur opposition à toute forme de dépossession dictatoriale de leur unique source de vie, la terre. Donc c'est pour sensibiliser l'opinion mondiale et internationale sur le sort de ces dizaines de milliers de personnes qui risquent d'être privées de leurs moyens de subsistance que 9 organisations de la société civile ont organisé cette caravane contre l'esclavage foncier et la spoliation des terres. Celle-ci s'est achevée le mardi 11 novembre à 1 km de la ville de Rosso par une violente répression suivie de l'arrestation des organisateurs et des militants. Lorsque les forces de l'ordre ont chargé, Biram a exhorté les caravaniers de ne pas répliquer, garder leurs mains au cou, prêts à donner en martyr leur vie au noble combat. Et le leader abolitionniste de s'exécuter en ce sens, suivi par ses amis. Biram a toujours prêché la non-violence. Ils sont arrêtés, tous les trois, sans résistance, et emmenés à la compagnie de la gendarmerie de Rosso. Trois personnes s'évanouissent sous les bombes lacrymogènes. Les ambulanciers les évacuent. Lors de leur audition devant le procureur, les détenus ont confirmé qu'ils ont été torturés et subi toutes sortes d'humiliations et traitements dégradants. Brahim Bilal Ramdam et Katri Rael, souffrant, ont réclamé un examen médical, mais leur requête a été rejetée par les autorités. À Nouakchott, le siège de l'association de Biram, le siège a été encerclé puis fermé par les forces de l'ordre, un peu avant le déclenchement de la répression à Rosso. Cette coïncidence paraît la preuve d'un plan concerté des autorités visant à décapiter l'organisation abolitionniste. De fait, l'arrestation de Biram a mis le feu aux poudres. Dans un interview de Biram, il disait qu'en fait, ce système d'apartheid qui se maintient en Mauritanie tient surtout par le soutien occidental de la France et des USA en particulier. Si l'aide militaire, économique et diplomatique de ces pays à la Mauritanie cesse, le pouvoir va s'équilibrer. L'erreur de ces pays, donc de notre pays en particulier, est qu'ils font de la présence de Aziz, le président, comme une condition de leur sécurité d'avant-garde quant au terrorisme dans le Sahel. Comment fermer l'œil et soutenir la confiscation des libertés de la majorité d'un peuple pour une stratégie aussi légère? Ce pouvoir, en fait, développe les extrémismes et les obscurantismes les plus dangereux. C'est quand même ce pouvoir qui, le premier, a utilisé l'arme de l'excommunication religieuse et l'accusation d'apostasie. Alors là, on parle du pouvoir de Mauritanie, hein, du pouvoir du président Aziz. à partir de laquelle, en Conseil des ministres, en mai 2012, il avait condamné Biram à mort. Quelle est la différence idéologique entre ce président, Aziz, et les organisations telles que Daesh et Boko Haram ? Ce sont pareils, des voyous enveloppés des habits de la foi, mais ce sont des voyous. Et quand le président a répété devant les ambassadeurs accrédités en Mauritanie, invités par ses soins, dont ceux des USA, de l'Union européenne et de la France, il a dit que Biram méritait la mort au regard de l'islam, aucun ambassadeur occidental n'a répondu, n'a rappelé les principes de son pays, la liberté de conscience, la prohibition de la peine de mort. Voilà. Donc il y a vraiment un soutien immoral de notre pays, des pays occidentaux, au président actuel de la Mauritanie. Alors Biram, bien sûr, il a eu le prix des droits de l'homme de l'ONU en 2013. Et il serait temps que les gouvernements de nos pays soutiennent les défenseurs des droits humains au lieu de soutenir ceux qui les mettent en prison. Alors à la question, on vous dit extrémiste vous-même, dans votre discours particulièrement et vos prises de position. Voilà ce que répond Biram. Ai-je déjà cassé ou exhorté à casser ? Ai-je déjà blessé, tué ou exhorté à le faire ? Jamais, et je ne le ferai jamais. Je ne cautionnerai jamais la violence ou la lutte armée. Mais sinon, le discours est violent, de rupture totale, parce que la situation que vit la plus large frange de la population mauritanienne est violente. Elle vit dans la misère, l'exclusion et la discrimination qui fait d'elle des citoyens de troisième zone, derrière même les étrangers arabes qui vivent en Mauritanie. Donc en fait, c'est un non-violent, mais son discours est violent parce qu'il s'oppose à toutes ces injustices flagrantes qui sont dans son pays. Alors, ce que vous pouvez faire pour un soutien très large de Biram et de ses compagnons, c'est d'aller sur le site de l'ACAT et vous verrez une lettre qu'il faut télécharger, imprimer, signer et envoyer, sans oublier d'envoyer la copie de cette lettre à l'ambassade de Mauritanie en France.
Là, il ne suffit plus d'envoyer qu'une pétition signée.
Voilà, là, à la CAD, ce sont des lettres. Hein, mm-hmm. C'est la même façon d'agir qu'Amnesty. En fait, ce sont des associations qui sont très proches l'une de l'autre. Amnesty International, pour l'instant, n'a pas fait d'action, a juste fait un communiqué de presse pour dénoncer... C'est l'emprisonnement de ces défenseurs des droits humains. Voilà, il y a en ligne aussi, il y a plusieurs pétitions en ligne sur Avaz, sur Walkfree et sur pétition24.net. Donc vous pouvez aussi aller signer ces pétitions. Et si vous voulez vous renseigner sur l'évolution de la situation... Il y a le site de Biram, alors ça s'appelle biramdaabed.org. Ce sera.
Comment ça se
fait que oui, tu l'épelles ?
Oui, ça serait mieux de l'épeler. Donc biramdaabed, donc Biram, B-I-R-A-M, daabed, D-A-H-A-B-E-I-D.org.
Voilà, peut-être qu'on pourra le mettre
sur le site en dessous de l'émission.
Le site de Fréquence Mistral. Ouais. Voilà, comme ça vous êtes informé de l'évolution de la situation. Je sais que, en fait, à partir de 18h, ils sont enfermés dans une cellule très étroite qui ne leur permet pas de s'allonger. Donc ils essaient de dormir debout, mais c'est très difficile et c'est une forme de torture. Hein. Bon, et puis Biram, il a 5 enfants. Les violences faites aux adultes impactent aussi les enfants. Hein. On parlait de la Convention internationale des droits de l'enfant. Toutes les violences sont souvent terribles pour les enfants aussi, même si ça les touche indirectement. Voilà. Voilà pour Biram. Donc on espère qu'il va... que la mobilisation internationale va augmenter et qu'il va être libéré rapidement, ainsi que les toutes les personnes de son association qui sont avec elle en prison.
Donc on rappelle, il faut signer les pétitions en ligne. Donc on peut trouver aussi sur Amnesty ou non, sur Avaaz.
Sur Avaaz,
Walk Free.
Et pétition24.net.
Voilà.
Et puis aller sur le site de l'ACAT.
De l'ACAT, donc L'ACAT. Pour télécharger la copie d'une lettre et l'envoyer à l'ambassade.
Et l'envoyer au président Aziz pour demander la libération de Biram et de ses compagnons, avec toujours copie à l'ambassade, parce que c'est aussi important que l'ambassadeur mauritanien en France soit au courant des actions que font les Français en faveur de Biram.
Donc l'adresse, tout est indiqué.
Tout est indiqué, il suffit, vous tapez ACAT sur votre moteur de recherche, vous aurez ACAT France. En rentrant dans leur site, vous aurez des informations sur les droits humains, mais vous verrez la photo de Biram avec l'action à faire. Vous cliquez dessus, vous avez la lettre à télécharger. Ensuite, vous remplissez votre nom, votre adresse, vous signez et vous envoyez en courrier international. Donc, c'est 98 centimes. Et la copie à l'ambassade à Paris, en France. Vous avez aussi l'adresse qui est indiquée. Voilà. Nous allons maintenant parler avec Nicolas du conflit à Gaza, parce qu'il y a un rapport d'Amnesty qui vient de sortir. Et justement, pendant le concert, vendredi dernier, il y a quelqu'un qui est venu me parler, qui est un donateur à Amnesty et qui parlait d'Amnesty avec des gens. Et ces personnes ont dit « Oui, mais Amnesty, vous êtes pro-israélien, etc. » Voilà, on a été accusé de... d'être plutôt du côté des Israéliens. Ce rapport-là, qui vient juste de sortir, vient en contradiction totale avec ce qu'on avait dit à ce monsieur. Et donc, je me suis dit, c'est peut-être bien d'en parler maintenant. Nous, on est contre aucun gouvernement. On est pour les droits humains et on se lèvera chaque fois qu'il y a des violations des droits humains, de quel côté que ça vienne. Voilà. Donc Nicolas, si tu peux nous... Oui, on va le faire à deux, en fait. Ouais. Voilà. Alors, donc c'est un rapport qui date du 5 novembre 2014. Des familles sous les ruines, attaque israélienne contre les maisons habitées. Voilà le titre du rapport. Conflit à Gaza, Israël visait des habitations civiles délibérément. Les forces israéliennes ont tué des dizaines de civils palestiniens dans des attaques menées contre des maisons abritant des familles lors de la dernière opération israélienne dans la bande de Gaza. Notre nouveau rapport décrit 8 cas dans lesquels des habitations à Gaza ont été prises pour cible par les forces israéliennes sans avertissement, causant la mort d'au moins 111 personnes, dont au moins 104 civils, pendant l'opération Bordure Protectrice en juillet et août 2014. Le rapport montre que les forces israéliennes ont eu recours à des bombardements aériens pour détruire des habitations, tuant parfois des familles entières.
Au moins 18 000 logements ont été détruits ou rendus inhabitables pendant ce conflit. Il y a eu plus de 1500 civils palestiniens, dont 519 enfants, qui ont trouvé la mort dans des attaques israéliennes pendant le dernier conflit à Gaza. Des groupes armés palestiniens ont aussi commis des crimes de guerre. Ils ont tiré sans discrimination des milliers de roquettes sur Israël, tuant 6 civils, dont un enfant. Les autorités israéliennes et palestiniennes doivent adhérer au statut de Rome et accorder à la CPI le pouvoir d'enquêter sur les crimes commis en Israël et dans les territoires palestiniens occupés. Elle engage également le Conseil de sécurité des Nations Unies à saisir le procureur de la CPI de la situation en Israël et dans les territoires palestiniens occupés afin qu'il puisse enquêter sur les allégations de crimes relevant du droit international commis par toutes les parties. Israël continue d'interdire aux organisations internationales de défense des droits humains, dont Amnesty International, de se rendre à Gaza. Et l'organisation a dû mener ses recherches pour ce rapport à distance, avec le soutien de 2 personnes travaillant sur le territoire à Gaza. Les autorités israéliennes ont ainsi annoncé qu'elles ne coopéreraient pas avec la commission d'enquête mise en place par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.
Voilà. Donc, face à toute cette violence-là, On a eu envie de mettre un petit peu de douceur avec Henri Salvador dans son jardin d'hiver.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cohère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Dans mon jardin d'hiver.
Et on retrouve Régis pour la dignité.
Voilà, alors pour la dignité, nous vous invitons à participer à notre grande action mondiale qui s'appelle 10 jours pour signer. Et en fait, elle va avoir lieu du 3 au 17 décembre 2014. Ça fait 14 jours, d'accord, mais bon, ça s'appelle quand même 10 jours pour signer. En fait, on l'a fait partir à partir du 3 décembre, parce que c'est la date anniversaire de la catastrophe de Bhopal. Ça fait 30 ans, hein, cette catastrophe qui a causé des grandes souffrances, des morts immédiatement, et puis de grandes souffrances qui continuent, avec toujours cette demande de justice de la part des victimes. Voilà. Donc, c'est 10 jours pour signer. Nous avons choisi 12 cas de personnes ou de groupes de personnes en danger. Et nous allons essayer de faire signer un maximum de pétitions, un maximum de lettres pour faire avancer ces cas et rendre justice à toutes ces personnes. Alors avant de vous présenter les 12 cas de la nouvelle campagne, nous allons vous dire un petit peu les avancées obtenues par rapport à l'année dernière sur les 12 cas que nous avions choisis. On a obtenu des résultats assez significatifs et ça nous encourage à continuer et à augmenter la participation, le mouvement pour ces personnes. Donc Nicolas, tu peux...
Oui, alors on commence par une bonne nouvelle parce que Yorm Bofa, qui est militante du droit au logement au Cambodge, qui est un pays d'Asie du Sud-Est, a été libérée du 22 novembre 2013 après une intense mobilisation mondiale. Donc, wow. en rapport avec les 10 jours pour signer, sans oui. doute.
Ensuite, le prisonnier d'opinion Tung Aung au Myanmar a bénéficié de 10 ans de remise de peine juste après les 10 jours pour signer. Sa peine est de moins d'un an désormais. Il bénéficierait de soins médicaux nécessaires à son état et peut aussi recevoir de la visite de sa famille.
Ensuite, Jaber Mejri, qui est prisonnier d'opinion en Tunisie suite à des messages sur des réseaux sociaux, a bénéficié d'une amnistie présidentielle le 5 mars 2014, mais il a été réemprisonné après avoir insulté un greffier du tribunal, ce qui lui a valu une nouvelle condamnation de 9 mois.
Nguyen Thieng Trung, blogueur et militant pro-démocratie au Vietnam, a bénéficié d'une libération conditionnelle avant terme le 12 avril 2014. Il est toujours en résidence surveillée, conformément à sa peine initiale.
Enfin, les manifestants de Bolot Naya. Donc le 17 décembre 2013, trois manifestants, Vladimir Akimenkov, Leonid Kovianzin et Nikolai Kavkazski, ont été amnistiés et libérés dans la foulée. Mikhail Kosenko, condamné à de l'internement psychiatrique forcé, libéré le 11 juillet 2014 après plusieurs mois de campagne.
Voilà, alors toutes ces libérations, ou s'il n'y a pas libération, il y a des avancées ou des remises de peine, c'est forcément dû à notre action. Hein. Nous avons envoyé, l'année dernière, on était à presque 3 millions de messages dans le monde entier. Hein. Et 590 000, rien que pour la France, hein, d'envoi de signatures de pétitions, de lettres, de messages d'encouragement aux prisonniers. Donc c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur et on va essayer de faire encore mieux cette année. Alors nous allons vous présenter les 12 cas de la nouvelle campagne. Ce sont des cas que l'on va suivre aussi toute l'année, à moins que les personnes soient libérées, que le dossier soit clos rapidement, ce qu'on espère bien sûr. Et nous allons... donc ces cas, vous pourrez signer pour eux à partir du 3 décembre ou venir à la médiathèque le samedi 6 décembre, à la médiathèque de Digne, samedi 6 décembre de 10h à 16h non-stop pour signer les pétitions papier et vous informer sur notre campagne. Donc voici la présentation des 12 cas de cette année. Alors, en Inde, 30 ans après la catastrophe de Bhopal, le 3 décembre 2014, les communautés alentour continuent de demander justice et souffrent des graves problèmes environnementaux causés par la catastrophe. Les communautés seront notamment incarnées à travers la situation de deux femmes victimes qui luttent pour la justice.
Au Vietnam, Nguyen Van Ay et Thapong Tan sont les cofondateurs du Club des journalistes libres et indépendants du Vietnam. Ils sont aussi des blogueurs reconnus pour leur dénonciation des injustices sociales, des violations de droits humains et sur la souveraineté nationale. Le 24 septembre 2012, Nguyen Van Ay a été condamné à 12 ans et Thapong Tan à 10 ans d'emprisonnement.
En Chine, en 2014, Lui Ping, défenseur des droits humains, a été condamné à 6 ans et demi de prison pour son implication dans le mouvement des nouveaux citoyens. C'est une prisonnière d'opinion.
En Gambie, le journaliste Ebrima Bemaney a été arrêté le 11 juillet 2006 dans les locaux du journal pro-gouvernemental Daily Observer. Il semblerait que les policiers en civil qui l'ont appréhendé appartiennent à l'Agence nationale des renseignements, le National Intelligence Agency, qui a ensuite nié toute implication dans son arrestation et son maintien en détention au secret. Des informations récentes semblent indiquer qu'il serait détenu sans inculpation au commissariat de police de Fatoto, dans l'est de la Gambie. Amnesty International le considère comme un prisonnier d'opinion et demande sa libération immédiate et sans condition.
Nigeria. Moses Akatugba a été arrêté à l'âge de 16 ans en novembre 2005, suspecté d'une attaque à main armée. Il a toujours nié, mais il n'a avoué qu'après avoir subi de graves tortures. Condamné à mort, il ne voit sa famille que deux fois par mois.
En Ouzbékistan, Erkin Mouzaev, un ancien fonctionnaire du ministère de la Défense, travaillait pour le Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, en Ouzbékistan quand il a été arrêté en janvier 2006. Il a été condamné à un total de 20 ans de prison pour des motifs politiques de trahison et d'abus de pouvoir suite à trois procès inéquitables en 2006 et 2007. Sa famille affirme qu'il a été torturé pour le forcer à avouer. Aucune enquête approfondie n'a eu lieu concernant les allégations selon lesquelles il a été torturé en détention. En dépit des nombreuses plaintes déposées auprès des autorités par Erkin Mouzaev, son avocat et sa famille.
En Norvège, John Janet, 65 ans, déclare « J'ai toujours été transgenre. Malheureusement, John Janet a dû cacher et réprimer cela pendant de nombreuses années. Vers l'âge de 4 ou 5 ans, on l'a trouvée habillée en fille, et de même encore quand elle avait 25 ans. C'était plutôt dur de grandir sans personne à qui parler de ces choses, mais j'ai survécu en excellant dans d'autres domaines et en réprimant mes sentiments. John Janet a pu changer son nom, mais pas son genre. Son droit à la vie privée est violé de manière quotidienne parce que ses documents d'identité ne reflètent pas son identité réelle.
En Grèce, une série d'agressions à caractère raciste contre la communauté rome se sont produites dans le village Etokiko, dans l'ouest de la Grèce. Au mois d'août 2012 et en janvier 2013, un groupe de résidents qui auraient été encouragés par des membres du parti d'extrême droite Obdoré ont agressé des Roms dans leur maison, les ont terrorisés et ont saccagé leurs propriétés. Certains de ces Roms ont subi des blessures et de nombreuses autres ont eu peur et ont fui leur domicile. Ils n'ont pu y retourner que plusieurs mois plus tard. Kokoni a été victime, avec son neveu handicapé mental, d'un crime de haine. Elle a porté plainte et attend toujours justice.
En Syrie, Jouan est membre de l'Union des jeunes kurdes de Syrie, un groupe de militants kurdes. Il a été arrêté le 3 septembre 2012, en même temps que d'autres personnes par des agents qui pourraient appartenir à la sûreté de l'État, dans une banlieue nord-est de Damas. Les forces de sécurité n'ont fourni aucun motif pour son arrestation. En dépit de plusieurs demandes, les autorités n'ont à l'heure actuelle pas donné plus d'informations sur son sort, ni sur l'endroit où il est détenu.
Aux Émirats Arabes Unis, Mohamed Al-Roken est professeur de droit constitutionnel et un éminent défenseur des droits humains. Il a été condamné à 10 ans de prison à l'issue d'un procès de masse le 2 juillet 2013, avec 94 autres personnes pour avoir demandé des réformes. Le procès est connu sous le nom de UEA 94. Le procès a été inéquitable de bout en bout.
En Égypte, Ahmed Maher, Mohamed Adel et Ahmed Douma sont des figures de la révolution ayant mené à la chute de Hosni Moubarak en février 2011. En décembre 2013, ils ont été condamnés à 3 ans de prison pour avoir participé à une manifestation non autorisée. Celle-ci visait justement à dénoncer une nouvelle loi restreignant drastiquement et arbitrairement le droit de rassemblement en Égypte.
Et pour conclure ces 12 cas, aux États-Unis, Shaker Amer est à Guantanamo depuis 2001. Il a été déclaré libérable en 2007 par l'administration Bush et à nouveau en 2009 par l'administration Obama. Malgré cela, le gouvernement britannique n'a jamais pu obtenir son rapatriement. Il n'a jamais été inculpé d'aucun crime et n'a jamais bénéficié d'aucun procès. Au contraire, il a été constamment maltraité, torturé et soumis à un isolement prolongé dans la prison de Guantanamo.
Voilà, alors si vous voulez participer, aider toutes ces personnes, vous pourrez le faire à partir du 3 décembre en allant sur le site d'Amnesty International et vous aurez un lien avec le site 10 jours pour signer. ça s'appelle 10jourspoursigner.org. Et vous aurez là toutes les nouvelles de l'action, du nombre de pétitions déjà signées, etc.
Le lien pour 10jourspoursigner.org ne sera actif qu'à partir du 3 décembre.
Voilà.
Ça, hein, il faut bien le préciser.
C'est l'opération qui est du 3 au 17 décembre. Oui. Et vous pouvez aussi, si vous êtes à Digne ou près de Digne, vous pouvez venir le samedi 6 décembre à la médiathèque intercommunale
Asbléon-Verdon,
merci.
Ah non, c'est là aussi la médiathèque François Mitterrand, c'est peut-être plus simple encore.
Voilà. Donc, nous serons installés dans le grand hall de cette médiathèque. Et de 10h à 16h, c'est-à-dire aux heures d'ouverture de la médiathèque le samedi, nous vous proposerons les 12 pétitions papier à signer. Et puis, nous vous informerons de nos actions. Vous pourrez laisser vos coordonnées, si vous le désirez, suivre l'évolution de ces personnes ou être au courant de ce que nous faisons ou pourquoi pas nous rejoindre. Ça serait avec grand plaisir. Et puis, nous, en même temps, nous vous présenterons des albums pour enfants qui peuvent faire de très beaux cadeaux de Noël intelligents. Et puis, nous aurons aussi quelques calendriers et agendas pour 2015. Voilà. Alors, Nicolas, tu envisages, toi qui es étudiant à l'IUT, de répercuter cette action au niveau de tes collègues.
Tout à fait. Donc, pour les jeunes, il y aura la possibilité de venir signer donc, les 12 cas à l'IUT de Digne dans le hall d'entrée. Il y aura aussi peut-être, on ne sait pas encore, la possibilité de les signer au lycée David-Nel. On ne connaît pas encore les dates, mais ça ne saurait attendre. Et dans le cas où vous souhaitez nous aider pour tenir le stand et aussi, pourquoi pas, pour faire partie d'une antenne jeune, c'est-à-dire du groupe militant jeune d'Amnesty International âgé de 15 à 25 ans, vous avez la possibilité de me contacter par mail ou par téléphone. Je vais tout de suite vous donner mes coordonnées. Donc par mail, vous me contactez à cuchietinique.asso@gmail.com. J'appelle cuchietinique.asso comme association @gmail.com. Je répète encore une fois, cuchietinique.asso@gmail.com, cuchietinique.asso comme association @gmail.com ou encore me contacter par téléphone au 06 76 08 98 56. Je répète encore, 06 76 08 98 56.
Donc cette action à l'IUT et éventuellement au lycée David-Nel, ce sera également le même jour qu'à la médiathèque, le samedi 6 décembre.
Ah, pas forcément, pas ce forcément. Sera pendant les jours scolaires. Il n'y a pas de date encore. Ça sera normalement entre midi et 2, ou peut-être à un moment de l'après-midi ou de la matinée, de préférence qui soit profitable pour les élèves, pour les jeunes, pendant la récréation.
Donc,
le temps de libre.
Dans les 10 jours pour signer.
Oui, tout à fait. Entre le 3 et le 17, on va essayer donc de discuter ça avec les chefs d'établissement, que ce soit pour l'IUT ou pour le lycée Alexandre David-Nel, et qui nous proposera des dates pour ces créneaux-là.
Voilà. Bien. Et en même temps, on va recevoir donc du matériel d'action, des affiches, des cartes postales, et puis la présentation photo des 12 cas que nous vous avons présentés tout à l'heure. Et donc, ce matériel va servir le samedi 6 décembre à la médiathèque. Et puis, c'est Nicolas qui le récupérera pour servir à l'IUT et au lycée. Alors, il y avait un problème par rapport aux signatures de pétitions par les jeunes. Donc, je me suis renseigné à partir de quel âge peut-on...
Ah oui, par rapport à la majorité
voilà.
ou pas.
Ouais, donc, en fait, d'après les textes, un jeune peut signer à partir de 16 ans, il n'a pas de besoin de demander l'autorisation parentale pour le faire. En fait, c'est justement par rapport à la Convention internationale des droits de l'enfant qui donne aux jeunes la liberté d'expression et de manifester cette expression. Donc, ce qu'il n'a pas le droit de faire avant 18 ans, c'est de contracter. Or, une signature de pétition, ce n'est pas un contrat. Mmh. C'est juste...
Contracter, c'est-à-dire d'adhérer.
De contracter...
ça n'a pas de valeur juridique.
Ou quelque chose comme ça. Mmh. Là, la signature de pétition, c'est juste dire « Je suis d'accord avec les termes de la pétition. Mettons, je suis d'accord pour demander la libération de cette personne injustement emprisonnée. C'est son opinion et il a le droit de l'exprimer. » Donc. Dans les textes on parle de 15 ans et nous pour être sûr on dit à partir de 16 ans les jeunes peuvent signer donc les lycéens et à l'EUT il n'y a aucun problème et les lycéens il y en a énormément qui ont 16 ans quoi,
donc voilà. Ils peuvent signer mais est-ce qu'ils peuvent devenir membres d'Amnesty?
Oui tout oui. À fait membre oui. De l'antenne jeune.
D'accord.
D'Amnesty et même du groupe. Hein,
oui. Si... Alors, pour être membre de l'antenne jeune, ils n'ont pas l'obligation d'adhérer à Amnesty International. Il faut que l'antenne jeune, que le référent de l'antenne jeune soit membre d'Amnesty International. Alors après, bien sûr, les jeunes qui le rejoignent peuvent adhérer aussi. Il n'y a aucun problème. Mais ils ne sont pas obligés hein, d'adhérer. Voilà.
Il n'y a pas que le référent. Hein, parce que pour créer une antenne jeune, il faut en fait être quatre jeunes inscrits, adhérents à Amnesty International. Et une fois qu'il y ait quatre adhérents, le reste des jeunes n'est pas obligé d'adhérer Amnesty International. Il faut savoir que pour une adhésion à Amnesty International, il faut compter. Rappelle-moi le montant de la cotisation pour les adultes.
Je crois que c'est. Il y a une adhésion minime pour les jeunes.
Oui, voilà, ça, c'est ce que j'allais en parler, mais par rapport aux adultes.
Alors,
pour adhérer. Une cotisation annuelle pour les jeunes, la cotisation annuelle est de 12 euros par an.
Voilà.
Et il y a la
possibilité. C'est 1 euro par mois. Quoi.
Voilà, exactement. Donc, je veux dire, vous ne faites pas. C'est comme si vous allez une fois au cinéma. Ça ne va pas. Vous cotisez pour une cause qui est quand même les droits humains. Et la cotisation pour adultes...
Je crois que c'est 72 euros, mais...
Non, 72 euros avec la chronique et avec voilà. Le magazine. Mais la cotisation seule, c'est de 30 euros à peu près, quelque chose comme ça.
Je ne me souviens plus, il faudrait regarder. On vous le dira voilà. À la prochaine émission. Mais c'est sur le site aussi d'Amnesty International hein, que
tout
vous trouvez
fait,
tout...
Ouais.
Voilà, alors, je vous rappelle, hein, venez nombreux le samedi 6 décembre à la médiathèque intercommunale de Digne, de 10h à 16h, signez nos pétitions pour améliorer le sort des personnes que nous avons citées et en même temps montrer un peu, voir un petit peu le travail que nous faisons tout au long de l'année et puis... venir nous rejoindre, pourquoi pas, pour continuer ce combat tout au long de l'année. Alors, toutes les radios ont reçu des spots. Il y a trois spots qui présentent trois des 12 cas et qui sont lus par François Morel, hein, qui est chroniqueur à France Inter, humoriste, chanteur, acteur,
comédien,
oui, qui a beaucoup de cordes à son arc et qui... s'est prêté gracieusement l'enregistrement de ces trois spots avec sa voix bien particulière et expressive.
Est-ce que tu veux qu'on les écoute ?
Eh bien, on pourrait les écouter. Oui,
je les mets, les
Allez.
Trois à la suite.
3 décembre 1984, une explosion provoque des fuites de gaz toxiques à Bhopal, en Inde. 3 jours et 10 000 morts plus tard, les responsables industriels redoublent d'efforts pour ne pas agir. 30 ans après, plus de 500 000 personnes souffrant de cécité, d'hépatite ou d'affection pulmonaire réclament justice. Mais les responsables restent fermes. Ils mettent en œuvre tous les moyens nécessaires pour continuer à les ignorer. Avec Amnesty International, ne fermons pas les yeux sur les violations des droits humains. Agissez maintenant sur 10jourspoursigner.org. Le 3 septembre 2012, Juan Abdraman Khaled, un jeune Kurde, a été arrêté par les services de sûreté syriens. Ses proches n'ont eu aucune explication sur son arrestation. Ils ne savent pas où il se trouve, ni même quel traitement lui est dispensé. Torture à l'électricité, arrachage d'ongles, de dents, viol, mutilation, brûlure. Mais peut-être aussi qu'aucun sévice ne lui est infligé. Il est peut-être mort depuis longtemps. Avec Amnesty International, ne fermons pas les yeux sur les violations des droits humains. Agissez maintenant sur 10jourspoursigner.org. Depuis 2002, Shakur Hammer, résident britannique, est détenu à Guantanamo. Il est très vite passé aux aveux, après avoir été privé de nourriture pendant 9 jours, les pieds plongés dans de l'eau glacée. Il a reconnu immédiatement tous les faits, après avoir perdu 27 kilos, maintenu enchaîné dans des positions insupportables. Déclaré libérable en 2007, Shakur Hammer est pourtant toujours détenu à Guantanamo. Avec Amnesty International, ne fermons pas les yeux sur les violations des droits humains. Agissez maintenant sur 10jourspoursigner.org.
Alors, à chaque fois, il termine dans les présentations de ces trois cas, ne fermons pas les yeux sur les violations des droits humains, parce qu'en fait, c'est un peu notre slogan cette année. Les affiches, d'ailleurs, sont conçues comme cela. Le slogan, si vous voulez, c'est « Votre regard est une arme contre les violations des droits humains ». Et vous aurez des affiches avec des regards de personnes, parce que en fait, quand des personnes violent les droits d'autres personnes, ils espèrent le faire à l'abri des regards de la population. Ça se fait toujours dans le secret, quand on va pas torturer sur la place publique. On fait disparaître les gens. Tout ça, c'est tenu secret. Et plus il y a des gens qui sont conscients et qui regardent ces violations des droits humains et leurs auteurs, plus on arrivera à faire disparaître ces violations. Donc voilà, notre slogan, c'est « Votre regard est une arme contre les violations des droits humains ». Et on essaiera aussi de prendre en photo les regards des gens qui sont d'accord pour le rajouter sur un site. Ça fera une pétition un petit peu originale avec le regard des personnes qui regardent droit dans les yeux les auteurs des violations des droits humains, pour dire on est là, on vous regarde. Vous pouvez pas faire ça dans le secret. Nous sommes très nombreux à être au courant. Il faut rendre justice, libérer ces personnes. Voilà. Donc c'est une opération mondiale, hein, et on espère faire venir beaucoup beaucoup de personnes à nous pour aider à améliorer le sort de ces 12 cas et à travers le sort de beaucoup d'autres cas similaires. Voilà, et puis après cette action, on sera encore une fois présent à Digne, le groupe d'Amnesty International, puisque le mercredi 17 décembre, de 9h30 à 16h, nous serons dans le grand couloir de l'ESPE. Alors l'ESPE, c'est l'ancienne UFM, anciennement École Normale. Donc le plus simple, c'est de dire l'École Normale, parce que là, tout le monde comprend. Donc, vous voyez ce grand bâtiment à Digne, l'École Normale. On va présenter aux futurs enseignants des albums qui sont coédités par Amnesty International et qui parlent aux jeunes des droits humains, de la solidarité, de la lutte contre le racisme.
Des jeunes et je dirais même des enfants.
Et même des enfants, oui, puisqu'on a des livres qui commencent pour la maternelle, hein, et qui vont jusqu'au collège et au lycée. Donc, on va vous en présenter deux que nous venons de recevoir maintenant. Deux nouveautés, La Feuille Verte et Personnage et les Trois Ogresses. Alors peut-être, Nicolas, tu peux nous dire quelques mots sur La Feuille Verte.
La Feuille Verte, donc La Feuille Verte, c'est un album pour les petits, de Anne Corté et de Candice Hayat, qui a été édité par les éditions Sarbacane, et qui raconte l'histoire d'une feuille verte qui, en automne, décide de rester perchée sur un arbre, contrairement à ses sœurs qui, donc, des feuilles mortes qui tombent. Et elle passe donc tout un hiver à découvrir donc la neige, de nombreuses choses que les feuilles n'ont pas l'occasion de voir normalement. Et elle arrive à surmonter l'hiver, la tempête, le froid, la pluie, la neige, et elle arrive donc jusqu'au printemps où elle voit même c'est des jeunes feuilles, des jeunes bourgeons éclore. Et du coup, elle raconte donc ce qu'elle a vu à toutes ces petites feuilles qui viennent de naître. Et la chute, c'est que à la fin, à l'automne suivant, toutes les feuilles qui sont nées ainsi que la feuille qui est restée pendant tout l'hiver restent sur cet arbre pour admirer donc tout ce qui va se passer l'hiver prochain. Donc c'est une belle métaphore qui souligne que certains combats ne se gagnent sur la durée et tous ensemble. C'est ce que mène Amnesty International pour le respect des droits humains. Et donc ça donne vraiment envie de lire, les enfants vont adorer ça.
Je l'ai acheté pour ma petite fille, mais elles sont encore un peu jeunes, mais je leur raconterai.
Voilà, quand elles sont trop jeunes pour les lire, on peut leur lire. Et ça fait toujours plaisir. Voilà. Alors, un autre album, là, un très grand format, qui s'appelle « Perce-Neige et les trois ogresses », qui a été réalisé par Gaël Aymon et Peggy Neal, aux éditions Talent Haut. C'est un conte d'un autre genre qui détourne les rôles attribués aux garçons et aux filles pour mieux les dénoncer. Une réflexion en écho au combat d'Amnesty International. Voilà, donc c'est l'histoire par-delà les sept mers et les sept forêts, dans un pays, dans un royaume. Il y avait une jeune et jolie reine qui attendait un enfant. Son ventre était chaque jour plus rond et le roi, son mari, lui répétait sans cesse. « Surtout, faites-moi un fils, car une fille ne saurait diriger le royaume après moi. » Ce à quoi la reine répondait toujours, ce sera ce qu'il sera. Voilà, donc c'est de très beaux dessins, extrêmement bien écrits. Donc il naît ce personnage, hein, et ce personnage, c'est un fils. Mais c'est un garçon... Je vais vous le lire un petit passage.
Je crois que c'est mieux parce que tu es en train de le lire tout seul.
Le temps file comme le vent, sèche les larmes, efface les peines. Perce-Neige grandit en devenant chaque jour plus aimable et plus beau. Mais le roi pensait, le prince ressemble trop à sa mère. Il est beau quand il devrait être fort et aimable quand il devrait être craint. Alors certes, le roi a eu un fils, mais ce n'est pas le fils dont il rêvait, hein. Il décida donc qu'il était temps pour son fils de devenir un homme. Il ordonna qu'on lui enseignât la maîtrise des armes, mais Perce-Neige ne voulut pas se battre. Le roi en fut très fâché. Donc tout au long de ce récit, c'est l'histoire de ce petit garçon, très sensible, et de ce père qui n'a pas le fils dont il rêvait. Alors on va de surprise en surprise. Je ne vais pas vous le raconter, pour vous laisser justement découvrir ces surprises. Il est histoire d'un arbre magique, d'ogresse, chez qui l'enfant se réfugie, du père qui le recherche, etc. Et voilà, c'est passionnant, ça nous fait traverser un petit peu d'autres paysages. Et un très beau conte. Je vous le recommande, Perce-Neige et les trois ogresses. Vous pourrez donc le découvrir. Nous l'apporterons à la médiathèque le 6 décembre, ainsi que le 17 décembre, c'est un mercredi, dans le grand couloir de l'école normale de Digne-les-Bains. Est-ce qu'il nous reste encore un peu de temps, Odile ?
Oh, il nous reste du temps, il nous reste encore un quart d'heure si on veut.
Oui, donc je ne l'ai pas mis dans le programme parce que je l'ai pris sur le site d'Amnesty International et je me suis dit que c'était... c'est une collègue là qui m'a dit tu devrais en parler parce que c'est important et c'est tout récent, hein. Donc, vous pouvez le voir sur le site d'Amnesty International. Imaginez que vous n'êtes pas seul, que quelqu'un vous regarde par-dessus votre épaule, enregistre tous les mouvements sur votre ordinateur, lit et écoute toutes vos conversations sur Skype, utilise le microphone et la caméra de votre téléphone portable. Tout cela à votre insu. C'est ce qui arrive à des milliers de défenseurs des droits humains à travers le monde, surveillés par des logiciels espions installés par des gouvernements pour surveiller et réprimer les voix critiques. En cause, des logiciels espions développés hors de tout cadre légal par des entreprises et utilisés par de nombreux gouvernements. Face à ces menaces, Amnesty International, avec une coalition d'organisations de défense des droits humains, lance DETECH, un outil simple pour détecter les logiciels espions installés à votre insu par des gouvernements pour surveiller vos activités. La surveillance numérique ciblée s'est considérablement développée ces dernières années, dans l'illégalité et l'opacité la plus totale. Désormais, les logiciels espions développés ne se contentent pas de collecter vos communications, mais entrent à l'intérieur des ordinateurs et en prennent le contrôle. Donc voici l'outil développé par Amnesty et d'autres associations de défense des droits humains. Ça s'appelle DETECH, D-E-T-E-K-T. C'est un outil simple à la portée de tous. Exemple de résultats obtenus, le 20 novembre 2014, en collaboration avec d'autres organisations et experts, nous lançons DETECH, un nouvel outil permettant aux journalistes et aux défenseurs des droits humains d'effectuer une analyse de leur ordinateur afin de trouver d'éventuels logiciels espions connus. DETECH est le premier outil mis à la disposition du public qui puisse détecter, sur les ordinateurs et les appareils mobiles, les principaux logiciels de surveillance connus, dont certains sont utilisés par des gouvernements. Voilà, c'est un outil donc qui avertit les militants de ce type d'intrusion afin qu'ils puissent agir. Il permet de contre-attaquer face à des gouvernements qui utilisent certaines informations soutirées par le biais de la surveillance afin de soumettre défenseurs des droits humains et journalistes à des arrestations arbitraires, des détentions illégales, voire la torture. C'est conçu par Claudio Garnieri, chercheur allemand spécialisé dans les questions de sécurité. DETECH est lancé en collaboration avec Amnesty International, Digital Gesellschaft, l'Electronic Frontier Foundation et Privacy International. L'outil s'utilise quand votre ordinateur est hors ligne et que vous exécutez en mode administrateur. Il s'agit d'une première version du logiciel et des bugs sont existants, notamment sur Windows 8.1. Voilà. Donc vous pouvez vous renseigner sur ce logiciel en allant sur le site d'Amnesty International. Mais c'est important parce que c'est vrai que les outils modernes sont formidables, mais sont aussi souvent mal employés. Et on vous a dit dans les 12 cas qu'on avait des blogueurs qui se retrouvaient en prison à cause de leur opinion qu'ils ont émis sur leur blog. Donc c'est un outil formidable, mais qui est des fois utilisé par de mauvaises personnes. Pour de mauvaises actions. Voilà, donc on termine un petit peu cette émission. Nicolas, tu as des choses à rajouter ?
Ce qui serait intéressant, que je repasse mes coordonnées pour créer une antenne jeune, pour les jeunes qui seraient intéressés, les jeunes de 15 à 25 ans qui seraient intéressés pour créer avec moi une antenne jeune sur le Gignes-les-Bains, vous pouvez me contacter par mail à cuchietinique.asso@gmail.com, j'appelle. Alors c'est cuchietinique.asso comme association @gmail.com ou pour me contacter par téléphone au 06 76 08 98 56. Je répète 06 76 08 98 56.
Voilà.
Et promis, cette fois, ce sera indiqué juste au-dessus de l'émission qui sera en ligne sur le site fréquencemistral.com. Bien sûr, il faut aller sur l'onglet de Digne-les-Bains pour retrouver cette émission.
Donc voilà, nous allons nous quitter. Donc on vous rappelle, venez nombreux samedi 6 décembre à la médiathèque. Et puis le 17 décembre, si vous voulez aussi découvrir tous nos albums. et que vous n'avez pas pu venir le samedi 6 décembre, le 17 décembre, vous pourrez les voir dans le grand couloir de l'école normale de Digne-les-Bains. Et on va terminer cette émission en écoutant Marc Perron, Voyage.
Merci Régis et Nicolas Cucchietti pour cette belle émission encore qui nous tient informés des droits humains. À bientôt.
À bientôt Odile.
À bientôt.
Au revoir.